Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient un réflexe. Cette semaine, la transmission dans tous ses états, une série de Caroline Yatchev, réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a les aînés qui regardent les plus jeunes avec plus ou moins de bienveillance, des noms qu'on se transmet à chaque génération et les histoires et les biens qui vont avec. Et puis il y a aussi des habitudes, des usages, des savoirs et même des privilèges qu'on se transmet quand on a la possibilité de le faire et l'envie de s'en emparer. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas de l'héritage et ceux qui n'hériteront que d'eux-mêmes. Alors il faut peut-être questionner la transmission et se demander aussi si ce qu'on a à transmettre est forcément si désirable. Alors pour commencer, les personnages. Deux boulangères et un héritage familial reçu trop tôt, une famille de bouchers avec ses racines, des frères antiquaires qui se transmettent des gestes dont on ne sait plus qui les a inventés, et des professeurs et des chercheurs qui veulent mettre à plat les mécanismes de l'héritage. Ensuite, le décor. Des héritages que l'on endosse, d'autres dont on se détourne, de la sciure sur le carrelage, des gestes assurés, la mémoire des corps, des odeurs de pain frais, des copeaux, des amphithéâtres et des salles de réunion, des entreprises familiales. Aujourd'hui, 4e épisode, parfois les affaires de famille, on n'en veut pas.
Construction de machines bien d'équipement pour l'industrie.
Microtechnique.
Dans la même entreprise.
On est frères et sœurs.
Je fais partie d'un groupe qui s'occupe de la fabrication du matériel incendie.
C'est la première fois que vous faites ce genre de formation ?
Ce genre de formation, oui. Après, de rencontrer d'autres entreprises familiales, non, ce n'est pas la première fois.
Ma sœur, elle, est sur la région parisienne et moi, je m'occupe de la gérance d'une des filiales sur Aix-en-Provence.
Vous avez fait une école de commerce ?
Pas du tout.
J'ai fait une école d'ingénieur.
Enfin, nous, la formation, c'est surtout pour ça. Parce qu'on a déjà...
Strasbourg, 20 janvier 2017, Chambre de commerce et de l'industrie.
En fait, il n'y a pas une seule façon de faire, donc une seule façon de transmettre. Donc, c'est en fonction de la réalité, du contexte, de la famille, de ce que chacun a envie.
Nous sommes la 4e génération. Aujourd'hui, c'est donc notre père qui est encore dans l'entreprise.
C'est nos parents qui ont créé. Et nous, on est en train de reprendre.
La deuxième.
Donc moi, c'est la 3e génération, c'est mon grand-père qui a créé. Actuellement, c'est dirigé par ma mère. Moi, je suis en train de reprendre.
Bien, bonjour. Bienvenue pour cette 2e session de notre formation Jeunes Repreneurs d'entreprises familiales. Alors,
Patrice Charlier, maître de conférence en finance et gouvernance d'entreprise.
Avant de présenter le programme, je vais présenter Valérie Tandeau de Marsac. Elle est avocate et elle va vous parler des 5 facteurs clés de succès de l'entreprise familiale ce matin. Alors cet après-midi, vous aurez 2 intervenants. Jonathan Jacot qui va vous parler un peu de valorisation des facteurs clés de succès. Alors auditeur dans le groupe Mazars, donc il a l'habitude d'évaluer un peu les valeurs. Et puis un grand témoin, Viviane Netter, administrateur indépendante. Mais elle travaille aussi beaucoup dans le cadre d'entreprises familiales. Et elle a travaillé sur des problématiques de transmission d'entreprises familiales. Voilà, donc ça c'est le programme pour la journée.
Transmettre son entreprise, Caroline Eliachef, Manouchak Fachaï. Alors que tant de familles hésitent à transmettre ce qui leur vient d'un passé commun, la volonté de transmettre leurs biens, acquis ou hérités, résiste à tous les idéaux égalitaires et aux luttes menées contre l'inégalité des chances. Un aspect de l'héritage des biens est peu exploité par la littérature, le cinéma ou la psychanalyse. C'est celui de la transmission des entreprises familiales. Il ne s'agit ni de la défendre, ni de la critiquer, mais de comprendre comment ça se passe. Ce ne sont pas les grandes familles et les grandes fortunes qui défraient la chronique autour de conflits d'intérêts et de haine exposés sur la place publique qui nous ont intéressés. Ce sont celles, plus discrètes, moins riches et beaucoup plus nombreuses, qui tentent de faire mentir l'adage « la première génération construit, la deuxième maintient, la troisième détruit ». Cette affaire paraît trop sérieuse pour être laissée aux bons soins des seules familles. Depuis une 30aine d'années aux États-Unis et une 20aine d'années en France, banques, écoles de commerce et de management, associations, financent des programmes dédiés aux futurs dirigeants et à leurs familles. Parallèlement, se sont développés des cabinets de conseil spécialisés en gouvernance d'entreprises familiales, appelés Family Office, qui s'occupent individuellement des familles qui les consultent. Bref, la transmission des entreprises familiales s'est professionnalisée. Et en France, Christine Blondel, professeure adjointe à l'ENSEAD et fondatrice de Family Governance, en est une pionnière.
J'ai démarré en janvier 97, où nous devions donc développer cette nouvelle chaire pour l'entreprise familiale. Et notre première action a été de développer un cours. Et quand on développe un cours, eh bien, on cherche du contenu, on cherche ce qu'on va enseigner et on commence effectivement de la recherche, en fait. Hein. C'était pour les étudiants MBA qui prenaient ce cours optionnel sur les entreprises familiales. J'enseigne des programmes pour les entreprises familiales qui sont très participatifs en général. Et aussi, je conseille un certain nombre d'entreprises familiales.
Cet intérêt des professionnels va dans le même sens que nombre d'études et d'aides dont les familles font l'objet. Sauf que là, les enfants sont devenus adultes et les enjeux économiques sont étroitement mêlés aux enjeux psychologiques.
Ce qui est intéressant avec l'entreprise familiale, c'est qu'on est au croisement pratiquement de tous les sujets tabous de la société.
Valérie Tandeau de Marsac, avocate.
L'argent, le pouvoir, l'héritage, et puis si on ajoute la petite couche avec le nom, alors là, dans les entreprises éponymes, c'est gagné. En fait, on est sur des sujets archi, archi sensibles, et sur lesquels, en plus, il y a un héritage culturel français qui est quand même très complexe et pas forcément très bien digéré.
Bon, déjà, premier point, l'entreprise familiale, c'est la forme d'organisation capitalistique la plus répandue dans le monde. C'est partout dans le monde, c'est entre 60 et 90% des entreprises. Et plus l'entreprise est petite, plus il y a de probabilités qu'elle soit organisée sous forme d'actionnariat familial. Et après, plus elle grandit, et plus cette probabilité diminue.
Et qu'en dit à Paris Christine Blondel ?
Alors, le rôle de la transmission de l'entreprise familiale dans la grande économie est en fait extrêmement important, parce que c'est quand même le pilier de l'économie. Et quand il n'y a pas de transmission, il y a quand même un risque de vente. Alors ça, une vente peut très bien se passer, mais une vente, par exemple, à une société étrangère qui a son siège ailleurs peut aboutir à des licenciements en France parce que finalement, c'est pas chez nous. Vous voyez ? Les enjeux sont importants. Et en France, le pourcentage de transmission est bien inférieur à l'Allemagne et à l'Italie, par exemple. Bien inférieur. Entre autres, probablement pour des raisons fiscales. Des raisons de culture. En France, c'est pas très bien vu d'être, entre guillemets, héritier. Et certainement des raisons fiscales très importantes. Les chiffres sont impressionnants, c'est-à-dire qu'en France, on est peut-être en dessous de 20% de transmission, en Allemagne 50%, en Italie 70%.
Quand on va regarder un peu dans les territoires, c'est incroyable parce qu'on voit comme belles histoires. Donc je trouve que c'est sympa que vous soyez là ce matin parce que voilà, il faut vraiment, vraiment parler aussi de ces histoires entrepreneuriales qui sont des superbes aventures et pas seulement, encore une fois, des grands groupes. Après, vous parlez de leurs caractéristiques, l'affectio familiae, le familiness au capital social. C'est quoi la gouvernance des entreprises familiales? Parce que c'est un mot qui est un peu, moi je dis ça, c'est un peu un mot fourre-tout, on ne sait pas bien ce qu'il y a dedans. L'articulation de la gouvernance de l'entreprise et de la gouvernance familiale, parce que ça, c'est vraiment, vraiment un des facteurs clés du succès. Les enjeux de la transmission, parce que ça aussi, un des facteurs clés du succès, c'est la transmission. Un petit éclairage rapide, sans rentrer trop dans le détail, sur... l'interdépendance, qui est une des caractéristiques et un des enjeux clés des entreprises familiales.
On fait travailler les familles sur des cas réels et on les fait beaucoup réfléchir à elles-mêmes, en fait, hein, pour appliquer à chaque fois les idées qu'on rencontre à leur propre situation. Alors, beaucoup de gens me comparent à un psy. Je précise que je ne suis pas psy. Il faut faire attention de ne pas mélanger les rôles. Mais il y a quelque chose un peu du ressort de la thérapie, mais c'est sûr qu'il y a il y a des éléments psychologiques importants. Moi, mon outil principal, j'ai envie de dire que c'est l'écoute et la médiation.
On me dit toujours, mais comment tu fais pour éviter qu'il y ait des problèmes ?
Viviane Netter, expert en gouvernance et stratégie.
Ça passe par des réunions de famille, des séances de brainstorming, mais souvent, il faut trouver un thème. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous êtes beaucoup dans une famille, vous pouvez dire, tiens, là, on fait intervenir un intervenant. Alors, bon, je dis pas ça pour moi, hein, mais par exemple, même comme Valérie, dire, voilà, là, on va parler d'un thème particulier, ou par exemple, même votre banquier, vous lui dites, quelles sont les spécificités. Et puis, finalement, là, vous relevez les questions. Le conseil, c'est pas un conseil, là, forcément, mais il écoute et puis il voit aussi quelles sont les problématiques de la famille. Donc, il peut, en ayant un œil externe, il est finalement utile.
Un de nos grands thèmes de travail, c'est l'équité. Équité ne veut pas nécessairement dire égalité, d'ailleurs. Il peut être équitable de transmettre plus d'actions à celui ou celle qui va reprendre parce que ça correspond au schéma dans lequel la famille souhaite travailler. Notre grand thème, c'est qu'il est très difficile de savoir ce qui est juste. En revanche, ce qui est important, c'est que la manière dont on va prendre les décisions soit juste. C'est ce que nous appelons le fair process, processus de décision équitable. L'idée, c'est d'impliquer les personnes concernées dans la décision, d'avoir une certaine clarté, de pouvoir en discuter, de regarder des options, etc. Mais là, je vais prendre la question de l'actionnariat, parce que c'est là où c'est très facile de mesurer si c'est des parts égales ou inégales. Cette personne va se demander, alors, est-ce qu'il faut que je donne plus à celui qui reprend ou également à tout le monde? Et en fait, nous, notre réflexion, c'est ne raisonnez pas en circuit fermé. Allez demander à vos enfants comment ils ont envie de travailler. Ça paraît évident quand je vous le dis, mais de trop, trop nombreuses fois, les dirigeants en place réfléchissent dans leur bureau avec des consultants qui croient qu'ils savent ce qu'il faut faire, au lieu d'aller animer une discussion dans la famille sur, mais finalement, vous, prochaine génération, comment est-ce que vous avez envie de travailler? Comment est-ce que vous imaginez? Et la prochaine génération peut s'imaginer avec certains qui sortent complètement de l'actionnariat, ou un actionnariat complètement égal au contraire, ou, vous voyez, tout schéma est possible. Mais notre idée là-dessus, c'est vraiment ce qui est important, c'est de favoriser la communication dans la famille pour que les personnes concernées prennent la décision. Et c'est d'ailleurs mon rôle, c'est cette facilitation, en fait.
Qu'est-ce que ce serait pour vous, monsieur? Côtelette dans le filet, un peu épais, c'est bien saignant.
Ah! Une côtelette et votre mère, chef.
Gardez-moi ça si c'est pas du premier choix.
Vous m'avez dit la même chose hier soir pour mon beefsteak. C'était bon, mais il manquait de sang.
Manquait de sang. Eh bien, cette fois, vous serez content. Mathilde, 6,25 pour monsieur.
Et avec ceci, pour combien de personnes?
Pas pour le restaurant?
Ah non, moi je ne travaille pas au restaurant.
Ah d'accord.
Je travaille pour un particulier.
Oui.
Et sa boucherie préférée, c'est ici. Soit on achète là où on n'achète rien du tout.
C'est un métier, ça.
Une première notion qui est vraiment importante, maintenant on va chercher à identifier ce qui caractérise les entreprises familiales. En gros, c'est quoi l'ADN des entreprises familiales? C'est quoi? Alors la première notion sur laquelle je voudrais m'étendre un tout petit peu, c'est une notion d'affectio familiae. L'affectio familiae, c'est la volonté commune des membres d'une même famille d'œuvrer ensemble à un projet commun.
Il existe autant de familles que de façons de préparer ou non les enfants à reprendre l'entreprise familiale. Ça va du déni au souhait non formulé, de la liberté de choisir à la contrainte, aujourd'hui dévalorisée et même considérée comme la meilleure façon d'échouer. De même, il existe autant d'enfants que de façons de s'engager ou non à poursuivre l'aventure familiale. Les professionnels, nous sommes passés aux familles elles-mêmes et de la théorie à la pratique. Bernard Bissonnet, les boucheries nivernaises.
Mais écoutez, c'est pas compliqué. C'est une transmission qui s'est faite sans qu'on s'en rende compte. Tellement ça a été naturel. J'ai toujours eu le choix de faire ce que je fais aujourd'hui. Il faut dire aussi que je me suis donné les moyens de pouvoir faire ce choix. Je suis né dans une boucherie. J'ai pas honte de dire, parce que c'est la vérité, mon papa et ma maman me l'ont dit, j'ai été conçu dans une boucherie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon papa et ma maman se sont mariés en juillet 1954. Ils ont ouvert leur première boucherie à Suresnes le jour de l'appel de l'abbé Pierre, en plein hiver terrible. Et ils l'ont ouverte au mois de décembre. Dans l'arrière-boutique, ça s'appelle comme ça, il y avait un semblant de logement. C'est pour ça que je dis, j'ai été conçu dans une boucherie, dans le prolongement de la boucherie, dans l'arrière-boutique. Et il y a des anecdotes qui m'ont été racontées par moments, de moi, bébé, dans mon berceau, toujours dans l'arrière-boucherie, où pour pas que je pleure, mon papa avait coupé une queue de cochon, il avait mis une ficelle, il l'avait accrochée au-dessus du berceau, et je jouais avec la queue de cochon. Donc, étant né dans une boucherie, j'ai toujours travaillé avec mes parents. Sauf que moi, je peux dire, je n'ai jamais été obligé de le faire. Je l'ai fait parce que ça me plaisait, parce que c'était un prolongement. Mais par la suite, j'ai eu la chance de faire des études. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCA. J'y ai trouvé mon épouse, ou c'est elle qui m'a trouvé, je ne sais plus. Enfin, nous nous sommes mariés. Et on avait tout à fait la possibilité de faire autre chose que ce que nous avons fait, puisque mon épouse travaille aussi avec nous. Simplement, j'ai eu le choix, et un jour j'ai dit, je rentre dans les affaires, voilà, c'est tout, tout bête, tout simple.
Il y a une autre transmission qui se fait extrêmement tôt et de manière implicite, c'est la transmission des valeurs. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, je suis fondateur, fondatrice, une de mes valeurs, c'est par exemple de travailler ou de, je sais pas, d'apporter quelque chose d'extraordinaire à mes clients, etc. Est-ce que dans mon comportement de tous les jours, dans ce que je raconte à mes enfants, je transmets cela? Ou est-ce que je reviens tous les soirs en disant, mais quelle horreur, ce client m'a encore cassé les pieds, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai transmis implicitement à mes enfants par rapport à cette entreprise?
Meilleur souvenir de boucherie étant enfant, c'est quand mon père me réveillait à 2h du matin pour aller sur le marché de Rungis, avec lui faire les achats, parce qu'il s'occupait pendant une partie de sa vie de faire les achats pour le groupe.
Jean-Baptiste Bissonnet, fils de Bernard Bissonnet.
Alors depuis que je suis né, bon certes, quand j'étais tout petit, j'ai pas trop de souvenirs, mais oui, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que c'est vraiment une histoire de famille, et on est bouché de père en fils depuis Napoléon. Voilà. Oui, j'ai toujours su que j'allais devenir boucher.
Et je pense avoir procédé de la même façon avec mon fils Jean-Baptiste. Il a fait une école de commerce. Quand il en est sorti, il parlait 3 langues. Et il est parti travailler à l'étranger. Il y est resté 2 ans. Au bout de 2 ans, il a souhaité revenir lui aussi. Il est revenu un samedi ou un dimanche, peu importe. Le lundi matin, à 3h, Jean-Baptiste était avec les bouchers en train de découper de la viande.
Savoir se retirer tout en restant présent est un art subtil, et du côté des héritiers, accepter de ne pas avoir les mains totalement libres en est un aussi.
On peut rajouter ce qui est extrêmement important dans notre style de management, c'est que les générations qui nous précèdent nous font confiance et ne nous mettent pas de bâton dans les roues. Et ça, je pense que c'est la clé d'une bonne transmission. Mais s'il y a une très bonne idée, bien entendu, tout le monde actionne dans le bon sens.
C'est sûr, l'ambivalence, elle est là. Je veux transmettre et en même temps, c'est tellement dur pour moi de transmettre parce que c'est vraiment l'œuvre de ma vie. Que je sois repreneur moi-même des générations précédentes ou que j'ai créé, encore plus peut-être si j'ai créé mon entreprise. Mais c'est ma vie. Parfois, c'est comme un enfant de plus, ce business. Parfois même, c'est perçu comme un enfant qui passe avant les autres. Donc, c'est super important pour moi en tant que fondateur, fondatrice. Et en même temps, j'ai envie que ça perdure, j'ai envie de le transmettre. Donc, toute cette ambivalence, elle est au cœur de la transmission.
Mais est-ce que la façon de transmettre se transmet?
Papa ne s'est jamais retiré. Il a 87 ans, il est dans sa 88e année. Par contre, il a toujours su rester en retrait. Vous voyez la petite différence. Je suis là, mais surtout n'hésite pas, si jamais tu as besoin de moi, j'ai un petit coup de téléphone tous les jours. Des fois, ça m'agace un petit peu, mais je me dis, peut-être qu'un jour, tu regretteras de plus avoir le petit coup de téléphone, comment ça va, alors, ça se présente bien, les ventes, les achats, il y a de la belle viande, et un tel qui devait te mettre ça, est-ce qu'il te l'a bien mis, est-ce que c'est bon et les petits agneaux qui arrivent du Quercy, quel poids ils font. C'est sa vie, c'est son univers, c'est évidemment le mien. Et c'est un instant et un moment de partage fort avec papa. Mais il est en retrait sans ne s'être jamais vraiment retiré. Voilà.
Et vous, par rapport à votre fils, vous n'êtes pas en retrait du tout?
Eh bien, détrompez-vous. Je peux presque vous dire une chose. C'est qu'à aujourd'hui, moi, je lui ai pratiquement déjà donné les clés de la maison et les clés des boutiques. Voilà. Ça a d'ailleurs été une de ses remarques il n'y a pas si longtemps. Mais papa, tu te rends compte, j'ai 30 ans, mais tu vois les décisions que tu me laisses prendre tout seul. Si tu te laisses les prendre tout seul, c'est que tu en es parfaitement capable de les prendre. Maintenant, je suis toujours là si tu as besoin d'un petit conseil.
Le bureau de mon père étant juste en face du mien, c'est en continu. Voilà. D'accord. Quand je ne le vois pas, on s'appelle peut-être 2 fois dans la matinée et 2-3 fois dans l'après-midi.
C'était quoi des
côtes d'agneau?
Des côtes de porc.
Oui. Alors pourquoi je fais les entailles? Parce que je laisse la couenne ici avec toute la couche de gras. Seulement, si vous le laissez comme ça, quand vous le mettez dans la poêle à chauffer...
Boucher de père en fils donc, mais où sont les femmes?
Alors, les femmes... Et mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue, qui s'appelait Alice Milan. Mon père, mon oncle ont travaillé avec elle rue Saint-Dominique parce qu'elle avait la boucherie rue Saint-Dominique. Et elle était la vraie patronne bouchère dans sa boucherie. Voilà. Et elle maîtrisait très très bien l'art de la découpe. Grand-père, donc, quand il a créé les boucheries nivernaises le 2 décembre 1954 sur un modèle économique où il y avait donc lui-même dans sa boucherie accompagné de ma grand-mère. C'était le duo. Voilà. Jean Bissonnet en duo avec Monique Bissonnet. Voilà. Elle l'aidait au quotidien donc dans sa boucherie. L'autre génération est arrivée et ma maman aussi est venue rejoindre le groupe familial.
On n'en saura pas plus, mais aujourd'hui, la bouchère n'est plus forcément la femme du boucher.
Oui, je suis partant moi, pour qu'il y ait plus de femmes dans la boucherie, qu'elles nous apportent de bonnes idées. Les femmes maîtrisent très très bien l'art de la déco et la précision.
Alors, je vous explique. Deux canards, terrine de canard, fromage girolle, pâté de campagne à l'ancienne, sans efficace, pâté de lapin à la moutarde, terrine de porc noir de Bigorre, il ne faut pas être au régime, mais c'est top. Terrine de chevreuil pour la chasse, pâté de crêpe persillée et jambon de persil.
On a pas mal parlé ce matin de la corporate gouvernance, donc c'est une théorie, la théorie de l'agence, mais il y en a une autre, puisque l'entreprise, en fait, familiale, c'est une famille et une entreprise, il y en a une autre aussi qui est intéressante et que les Américains appellent la stewardship theory, et donc en fait, elle prend plutôt en considération le mode de fonctionnement de la famille. Et elle met en lumière des choses qui sont assez intéressantes quand même, et qui sont notamment plus axées sur le besoin de coopération et de collaboration au sein de la famille, le besoin de faire grandir aussi, et faire grandir non seulement chacun des membres de la famille.
Valérie Tandeau de Marsac.
L'entreprise en elle-même, ça se traduit par une espèce de sentiment de loyauté, une valeur qui est très importante, qui est la valeur de loyauté, qui est le sentiment que l'on a, qu'on a reçu de ses parents quelque chose qui est l'entreprise, qu'on a le devoir non seulement de préserver pour pouvoir le transmettre à son tour, mais qu'on a le devoir de contribuer aussi à accroître, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est très prégnant dans les entreprises familiales, qu'on peut traduire tout simplement par loyauté, qui, à mon avis, est une valeur clé des entreprises familiales. Avec la confiance, bien sûr, qui fonde les relations interpersonnelles dans la famille. S'il n'y a plus la confiance, c'est compliqué. Donc, confiance, loyauté, c'est des choses qu'on va retrouver et qui sont très clairement expliquées, au-delà de la dimension humaine, bien sûr, mais qui sont très clairement expliquées dans cette théorie de la stéréotype qu'on traduit en français par indépendance.
Changeons d'univers. Nicolas Kugel, antiquaire, n'avait pas rêvé de succéder à son père, mais le destin en a décidé autrement. Avec son jeune frère Alexis, il a partagé la tâche de succéder à son père avant que celui-ci n'ait eu le temps de transmettre explicitement ses affaires et son savoir. Faire mieux que leur père, considéré comme un des plus grands antiquaires au monde, n'allait pas de soi. Quelques décennies plus tard, la galerie Kugel, spécialisée dans l'antiquité classique, métier de tradition s'il en est, est au moins aussi prestigieuse que du temps de leur père, qui lui-même avait dépassé leur propre père.
Mon père est né en Russie avant la Révolution.
Nicolas Kugel.
Il a passé une enfance dans différents pays. Il était en Angleterre, il était en Allemagne, avant d'arriver en France. Mon grand-père et donc sa famille sont partis. Ils ne se sont pas installés à Paris tout de suite. Mais donc si le métier s'est transmis, c'est pas une affaire qui s'est transmise. C'est plutôt un goût et une curiosité, mais ça n'est pas la même affaire qui s'est transmise de génération en génération, comme ça a été le cas pour moi. Alors, est-ce que je me sentais destiné à prendre la suite ? Je ne me pensais pas destiné à prendre la suite. C'est venu de façon mystérieuse, mais ça n'était pas du tout mon projet, non. On était dans un contexte dans lequel ces objets nous entouraient de façon naturelle. Donc on les a regardés. Notre père, par exemple, revenait de voyage, très souvent le soir, avec des sacs en plastique ou des valises avec des objets emballés dans du papier journal. Et notre jeu, c'était de défaire ces objets. Donc c'était Noël presque tous les soirs, dans le sens où on découvrait. Et donc on a eu la proximité de ces objets dans notre enfance. Et je pense que ça nous a évidemment aidé beaucoup à regarder, à apprendre à aiguiser notre regard sur les objets. Mon père est mort, j'étais jeune, j'avais 23 ans, mon frère en avait 19. Ça nous a paru la chose à faire, sans jamais ni s'en parler, ni l'exprimer. Ça nous a paru la chose à faire de façon naturelle, c'est-à-dire de continuer à faire vivre la galerie. Les collaborateurs et tous les gens qui travaillaient avec mon père sont restés, nous ont soutenus. Puis je pense que voilà, l'expérience s'est transformée petit à petit. Je pense que mon père était d'une génération où la transmission n'était pas peut-être d'une famille, où la transmission ne passait pas par la parole. La transmission passait par l'exemple et la transmission passait par divers canaux, et qu'aujourd'hui on est un petit peu plus ouvert. Je m'intéresse plus à ce que mes enfants font et pensent par rapport à, aux relations que j'ai eues moi-même avec mon père. On a des relations plus ouvertes.
Et à l'époque où vous avez commencé, vous aviez des connaissances particulières ?
Alors on avait évidemment très peu de connaissances particulières et très peu de connaissances. On connaissait les objets qui étaient à la galerie. Moi, j'ai pas fait d'études, je n'avais pas de connaissances universitaires, j'avais pas de connaissances, mais on s'y est mis. C'est-à-dire que chaque objet nous a appris quelque chose, et puis après, on s'est pris au jeu, et petit à petit, on a appris le métier sur le tas, c'est-à-dire en essayant d'acheter des choses qui ressemblaient à ce qui était le stock et la collection existante, qui était notre référence. Notre référence aussi, c'était le goût de notre père. Et donc, la question, est-ce qu'il aurait acheté, est-ce qu'il n'aurait pas acheté. On a vraiment foncé, sans se poser la question, sans se partager le travail. Les choses se sont divisées naturellement entre nous, mais il n'a pas été question pour l'un ou l'autre d'abandonner le navire. Évidemment, il y avait des doutes, mais comme nous-mêmes, on douterait si on avait eu un petit peu de distance, parce que c'était quand même une entreprise complètement folle que de faire ça à un âge si jeune. Bon, voilà, alors nous, on n'a pas eu de doute entre nous, donc on a continué. Et je dois dire qu'on a été soutenus par les collaborateurs, le réseau d'amitié professionnelle de notre père. On a eu plus de bienveillance que de malveillance autour de nous, et ça nous a beaucoup aidés. Et on a été aussi soutenus par ses clients, qui ont continué à venir à la galerie, qui ont continué à nous acheter, qui ont continué à... Et pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, qui nous donnait une force intérieure absolument formidable, parce qu'on achetait... Et puis tout d'un coup, on avait un grand musée où on vendait au musée Getty, on vendait, etc. On était des gamins. Et donc ça nous donnait une énergie de continuer qui était formidable. Et rétrospectivement, je pense que tout cet enthousiasme et de se plonger dans le bain, de reprendre une affaire telle que la nôtre, à un âge aussi jeune, c'était une manière de ne pas faire le deuil. C'était une manière de prolonger notre père, de prolonger son travail, et je pense que c'était notre manière à nous d'atténuer le traumatisme. Une des choses qui a été difficile, ça a été justement de ne pas mettre d'affect dans les objets qui venaient de notre père. Les objets dont on a hérité, on avait l'impression qu'ils avaient un supplément d'âme parce qu'ils venaient de notre père. Donc, on avait tendance à mettre un prix plus élevé et ne pas les vendre. Parce qu'à chaque fois, c'était un déchirement. Et donc, il a fallu un petit peu d'expérience et un petit peu de distance pour se rendre compte que mon père était antiquaire, qu'il avait acheté tout ça pour le vendre, et que ça n'était pas parce que c'était passé entre ses mains que ça avait une valeur plus importante. Et donc, on a appris un peu de prendre de la distance par rapport aux objets, ce qui était une qualité essentielle pour un antiquaire, parce que si on est attaché comme le sont les collectionneurs, ou comme on l'était de façon familiale à ces objets, eh ben c'est très difficile. C'est très difficile de se séparer, parce qu'on avait l'impression de se séparer d'un bout de notre père.
En scrutant les entreprises familiales, les spécialistes leur trouvent de nombreuses qualités s'opposant aux facteurs de déstabilisation de l'économie.
Les valeurs, c'est vraiment quelque chose de très très structurant dans les entreprises familiales. Et ça, c'est clairement une réponse à la perte de sens qu'on peut constater quand même pas mal dans les grands groupes avec toute la thématique du stress au travail, etc., etc.
Mais aussi le fait qu'elles soient orientées vers le long terme et l'innovation, qu'elles restent implantées localement, ce qui ne les empêche pas d'exporter à l'international, que leur endettement et les salaires des dirigeants soient dans l'ensemble raisonnables.
L'artichaut, pas du tout là. Le fond de l'artichaut pour la pâtisserie.
Sinon, je vais
Je vais vous expliquer un petit peu de la boulangerie. En fait, vous êtes dans une boulangerie qui date du XIIe siècle. Et le grand-père à Polonia a ouvert sa boulangerie en 1932. Nous travaillons à l'ancienne. Toute la rue du Cherche-Midi, c'était des anciens couvents. Et nous travaillons à la main, sur levain. C'est ce que vous avez ici, en fait. Vous voyez ? Vous avez ce levain qui va fermenter pendant 2 heures. Une fois qu'il est fermenté pendant 2 heures, le boulanger va repétrir par-dessus. Il va mettre du sel, de l'eau, de la farine. Et il va prendre la température de la farine, de l'eau, des températures du fournil. Il faut qu'il arrive à avoir une pâte entre 29 et 30 degrés. Une fois qu'elle est levée pendant 1 heure, on pèse des pintons de 2,2 kg et on les façonne à la main. D'accord ? On les met dans ces pintons ici que vous voyez. Alors, pesez à la main, façonnez à la main. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit peu.
Mon métier, je l'ai appris avec mon maître d'apprentissage, Félix. Et ça, c'était aussi une chouette...
À Polonia, Pologne.
Une chouette expérience. Il y a 2 moments dans mon apprentissage au fournil qui m'ont marqué. Le premier, c'est de voir mon maître d'apprentissage comprendre qu'on avait oublié du sel dans la pâte et de le voir à l'œil en quelques instants, alors que moi, j'en étais encore à... faire la pâte du pétrin à la pâtière. Et là, je me suis dit, ok, le gars connaît son métier et il va falloir que dans quelques années, je sois aussi bon que lui. Et l'autre moment qui a été marquant pour moi, ça a été la première fois que j'ai réussi le façonnage d'une fournée.
Là, il est évident qu'on ne met pas les mains. Hein. on est tous très tentés de se dire, tiens, on va l'aider avec ce truc. On l'a tous fait, cette bêtise.
On me présente toujours comme boulangère, ce qui fait rire les gens. Mais boulangère, chef d'entreprise. Mais c'est vrai que j'aime bien toujours dire boulangère parce que je trouve que ça reflète vraiment à la fois les racines de mon métier. Moi, mon métier, c'est le pain. Je façonne des miches de pain. Et ensuite, ça reflète... Enfin, je pense que c'est une bonne métaphore de mon quotidien de chef d'entreprise. Alors, j'ai quelques éléments du passage de relais entre mon grand-père, Pierre, et mon père, Lionel. Alors, d'abord, mon grand-père avait mis mon père au fournil quand il avait 14 ans. Donc, assez tôt, il a décidé pour mon père que la boulangerie, ce serait son métier. Et puis, c'est à l'aune d'un accident de la vie, mon grand-père a eu un AVC, que mon père a pris sa suite. Il a répondu présent pour soutenir son père et l'accompagner dans une période finalement de transition. Mon grand-père a survécu une quarantaine d'années à son accident. Et du coup, il a été un de mes maîtres d'apprentissage. Lui m'a beaucoup appris l'attention aux détails, une certaine rigueur et en même temps, une certaine générosité, puisque on fabrique un produit qui se mange, et du coup, l'idée c'est que nos pains, que nos pâtisseries boulangères, que nos biscuits nourrissent, ne serait-ce que visuellement, l'envie de le porter à sa bouche. Papa a certainement nourri d'autres ambitions. Je les connais pas toutes, mais en tout cas, il en a au moins nourri certaines dans ses passions. Comme pour l'aviation, par exemple, mais aussi l'astronomie. Nous élevait ma sœur et moi à 3 heures du matin. On allait au premier ou deuxième niveau de la Tour Eiffel pour voir une éclipse en pleine semaine. On ne trouvait pas ça terriblement excitant quand on était collégien, lycéen avec ma sœur, mais ça faisait partie de son goût pour les choses. Et autant il a subi le choix de mon grand-père, autant je pense qu'il en a fait une vraie force, je pense que il a rendu son métier encore plus beau. Il a été nourri de cette contrainte imposée par mon grand-père, parce que je pense que si mon grand-père ne l'avait pas forcé de travailler dans l'entreprise quand il avait 14 ans, probablement qu'il n'aurait pas nourri toutes ses réflexions sur le lien entre le pain et les choses, et comment faire d'une contrainte une opportunité pour, partager son métier, son savoir-faire, son regard sur ce qu'il appelait un aliment premier et pas primaire. Et puis, c'est certainement un goût qui nous a transmis à moi et à ma sœur d'être curieux de la vie et des choses. Tout au long de notre enfance, on nous a toujours dit deux choses. Un, il faut explorer, il faut être gourmand, il faut essayer différentes expériences, tester, trouver son terrain d'excellence, trouver son envie, ce qui nous plaît. Et du coup, l'effet un petit peu, l'effet un peu rigolo, c'est que lorsque, pour moi, depuis, probablement par mimétisme, et puis ensuite, parce que j'ai commencé à y trouver un vrai intérêt, j'ai dit à mes parents que je voulais prendre la suite de mon père. Ma sœur et moi avons souvent échangé sur ce propos, ce qu'on a trouvé vraiment génial dans l'éducation et le temps que l'on a eu avec nos parents, c'était de voir à quel point ils ont transcendé leurs expériences malheureuses. Mais ce qui est vraiment cool, c'est de se dire qu'une génération après, ils nous ont dit faites ce que vous avez envie de faire, mais surtout explorez des choses. Et leur façon de ne pas nous forcer de travailler dans l'entreprise, c'était toujours de dire « Elle pense peut-être un jour, pourquoi pas reprendre l'entreprise ?»
C'est une balance.
Ouais, c'est une balance romaine. C'est bête, c'est bête.
Alors, donc, troisième étape de fabrication, on pèse avec une balance romaine hyper simple et on façonne. Et quand on façonne, on donne la forme au pain que l'on va éventuellement cuire. Donc, on va avoir chez nous une miche de pain. Mais par exemple, nos pains de seigle au raisin sont des petits pavés. Donc, on peut façonner un pavé. Et là, moi, je trouve que c'est une des plus belles étapes parce qu'on a vraiment l'impression de donner vie au pain. Quand j'ai travaillé au fournil, c'était une des étapes que j'ai trouvées le plus enrichissante. On a un morceau de pâte un peu informe au départ. Quand il est bien coupé, la miche est déjà à moitié façonnée, mais les toutes premières miches qu'on façonne en tant qu'apprenti, elles sont globalement pas parfaites. Et en fait, cette action de nos mains pour lui donner forme, on donne vie, on donne souffle, on donne corps à ce morceau de pâte.
Et donc ça, c'est un tour de main qu'on apprend.
C'est un tour de main qu'on apprend, absolument.
Athéna Poilan.
J'ai toujours su, en tout cas, que je voulais travailler dans le monde artistique. Après, dans quelle branche exactement, j'étais pas sûre. Et c'est là où on m'a aiguillée. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, du coup, je crée des choses avec mes mains. Et c'est ce que j'adore faire. Et c'est peut-être un des trucs où je sais que je suis persuadée que je sais le faire. Je sais travailler avec mes mains. Et parce que j'aime ça, j'ose penser que je suis douée dans ce que je fais. Mais en gros, ouais, je crée des objets, que ce soit des sculptures ou des objets comme des bougeoirs ou des lampes. Et je crée des choses qui me parlent. En fait, je laisse un peu mes mains complètement suivre leur instinct, en fait.
Il semble que ce soit le pain ou que ce soit les objets que vous fabriquez, c'est un peu la même chose, quoi.
Ouais, que ce soit l'acte de pétrir du pain, une pâte, etc., machin, ou moi d'assembler différents éléments naturels, parce que j'ai énormément travaillé avec des éléments naturels. Et ouais, c'est complètement similaire.
Est-ce que votre mère était artiste également? Je crois qu'elle était architecte de formation. Elle vous parlait de son métier?
Malheureusement, on n'a pas eu trop le temps, non. Mais par contre, elle a exercé l'architecture quand elle était aux États-Unis. Et c'est vrai que quand elle est venue en France, donc effectivement avec les complications, l'émigration en France, etc., par rapport au travail, elle a suivi, je pense, un chemin un peu différent. Et du coup, elle s'est concentrée sur le bijou, sur le design d'objets, jusqu'à finalement vers la fin ouvrir sa propre galerie. Et c'est marrant parce que j'ai fait un travail de généalogie il y a quelques mois et je regardais du coup dans l'arbre généalogique et il y a deux éléments qui sont revenus. C'était le côté entrepreneurial, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, et aussi le côté artisanal, donc le fait de travailler avec ses mains.
Ce qui est rigolo, c'est que souvent on dit à ma sœur et à moi, tiens, toi tu fais comme ta mère et toi tu fais comme ton père, mais évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe que ça parce que
Apollonia Poilan.
Dans la façon dont nous on aborde notre métier de boulanger, on a besoin d'être sensible à la pâte, et donc je pense que c'est le même genre d'ouverture d'esprit que je peux partager avec ma sœur. Et je pense que mon père, à sa façon, était aussi un artiste. Et du coup, que ce soit mon père comme ma mère, ils étaient les artisans de leur destin, de leur métier. Et donc, ce qui est en tout cas très clair, c'est que depuis notre enfance, ma sœur et moi avons été encouragés à utiliser nos mains pour façonner notre avenir.
Si on parle de la difficulté de ceux qui reçoivent, effectivement, il y a une première chose qui est de se dire, mais est-ce que j'ai envie ? Est-ce que je suis compétent ? Est-ce que j'ai envie ?
Christine Blondel.
Je crois que on n'est pas très loin encore de l'époque où on disait le fils aîné va reprendre. Et je rencontre encore des familles où c'est un peu le raisonnement. Mais je crois qu'on va plus, en tout cas dans notre société, vers on va prendre les compétents et motivés. Et ça, c'est pas nécessairement le fils aîné. Ça peut être, mais pas nécessairement. Donc, du côté des successeurs, effectivement, il y a ce dilemme. Enfin, nous, on l'a beaucoup vu dans notre programme MBA, puisqu'on a encouragé les étudiants à faire des projets sur leurs entreprises familiales. Et la première chose, c'est effectivement de déterminer si de quoi ils ont envie, bien sûr de quoi ils sont capables, mais aussi de quoi ils ont envie, et comment est-ce qu'ils peuvent en parler. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis intéressée ? Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis pas intéressée ? Comment est-ce que j'initie la conversation, hein ? On revient toujours à cette fameuse parole. Et ensuite, comment est-ce que je vais me prouver ? Comment est-ce que je vais être pris au sérieux ? Et enfin, dans l'hypothèse où je suis rentrée dans l'entreprise, je suis pris au sérieux, etc., comment est-ce que je vais vivre cette situation de transmission qui parfois ne se fait pas ? Moi, j'ai un exemple d'un jeune à qui son père a dit « Écoute, il faut que tu reviennes tout de suite dans l'entreprise parce que j'ai vraiment besoin de toi. » Grande transmission devant tous les employés, je te passe le bâton. 14 ans après, le père venait encore tous les jours dans l'entreprise. Et le fils, là, c'était père et fils, était en train de ronger son frein et de se dire mais voilà, il m'a privé de cette expérience que je voulais faire d'abord à l'extérieur. Pour venir, c'était, paraît-il, très pressé. Et puis, en fait, je suis toujours pas en situation de pouvoir exercer mes talents. Bon, cette personne a ensuite pu effectivement reprendre, mais de manière très intéressante, cette même personne, c'est pas en France, c'est à l'étranger, des années plus tard, quand il s'est agi de sa propre transmission, n'a pas voulu donner, entre guillemets, le fardeau, parce que du coup, il l'avait plus vécu peut-être comme un fardeau à cause de cela, à ses enfants, et s'est orienté assez vite vers une vente.
La chance que j'ai eue, c'est que mon désir, mon envie était de reprendre l'entreprise. Mais aussi parce que papa et maman m'avaient montré à quel point notre métier était beau et à quel point est-ce qu'il pouvait nourrir nos envies, notre curiosité. Mais il est évident que j'ai eu cette chance, que le désir que n'importe quel parent a, j'imagine, de transmettre un métier, surtout quand on est dans une entreprise familiale, une aventure entrepreneuriale, la chance que l'on a eue, c'est que nos envies et leurs ambitions aient correspondu. Au moment où je prends la suite de mes parents, j'ai 18 ans, le bac en poche et la perspective d'une année de césure avant d'entamer un cycle universitaire aux États-Unis, 4 ans. J'avais l'envie de faire un cursus en économie pour me préparer à prendre la suite de mon père à la tête de Poilane. Et à l'automne 2002, mes parents décèdent dans un accident et du coup, je me suis projetée à la tête de l'entreprise. L'évidence que c'est ma place, parce que j'ai aussi grandi dans cet environnement. Donc, à l'époque, je pouvais se poser la question de se dire, est-ce qu'on prend un directeur général ? Mais aussi, en même temps que cet énoncé-là, de se dire, mais en fait, cette personne, elle ne connaît pas tout ce que j'ai vu, connu, compris. Et puis, j'ai aussi eu la chance, à ce moment-là, de pouvoir m'entourer des collaborateurs de mes parents, de pouvoir m'entourer aussi d'amis de mes parents, comme conseil. Parce que je les avais connus depuis toute petite, et parce que j'avais ce dialogue avec mon père, sur comment est-ce que lui envisageait l'entreprise, comment est-ce qu'il gérait une situation, comment est-ce qu'il voyait le développement de Poilane, j'ai pu savoir à qui est-ce que je pouvais m'adresser pour différentes questions. Et puis, Le temps faisant, j'ai aussi commencé à cultiver mes propres conseils à l'aune de rencontres, mais forcément nourrie de tout ce bagage que j'ai reçu.
Et enfin, dernier point, la difficulté de mettre en place une gouvernance dans une entreprise familiale, c'est aussi la difficulté de faire cohabiter deux systèmes, la famille et l'entreprise, qui fonctionnent selon des valeurs qui peuvent en apparence sembler relativement opposées.
Valérie Tandeau de Marsac.
Côté entreprise, rentabilité, rationalité, côté famille, émotion, affect, etc. Et donc toute la difficulté d'une bonne politique de gouvernance familiale, ça va être de faire, et à l'instant on avait un petit aparté qui était exactement là-dessus, ce que tu me disais là, ton entreprise, la troisième génération, avec une success story incroyable, parce qu'en fait, l'entreprise a fait porter son aventure sur des valeurs humaines, l'innovation, les gens qui sont bien dans leur boulot, etc., arrive la troisième génération qui sort des bonnes grandes écoles et qui, tout d'un coup, se met à mettre au devant de la scène les critères de rentabilité à court terme, etc., etc. Donc, tout le challenge, c'est justement de bien pondérer et équilibrer ces deux systèmes. Et quand on dit ces deux systèmes, c'est aussi des systèmes de valeurs.
Le rôti de veau et des œufs.
Ce
week-end, un rôti de veau mori.
La côte de bœuf, c'est la écosse. Et l'entrecôte, c'est le même morceau qui devient sans os, vous voyez. Je vous en prépare une. On a une très grosse consommation de côte de bœuf ici. Voilà. Je traverse Paris pour venir.
Cette photo a été prise février 1933 à Briard, dans Loiret.
Bernard Bissonnet.
Et sur cette photo, vous voyez donc un couple ici, mon grand-père, Lucien Bissonnet, ma grand-mère, Renée Bissonnet, et un collaborateur et une collaboratrice de l'époque. Mais également, vous voyez papa, il avait 4 ans à l'époque, puisqu'il est né en 1929. B comme Bissonnet, L comme Lucien, et c'était à l'époque une boucherie chevaline. Ça, Briard, vous avez le canal de Briard. Canal de Briard, c'était l'époque où les péniches étaient tirées le long des chemins de halage par les chevaux. Et il y a eu un basculement à une époque, quand elles sont devenues motorisées, pareil dans tout ce qui concerne l'agriculture ou la viticulture, parce qu'il y a aussi une tradition viticole dans les coteaux du Giennois, eh bien, il y a eu un afflux de chevaux sur le marché. Mon grand-père, qui était commerçant de chevaux, marchand de chevaux, a repris son métier initial, il était boucher, et il est devenu boucher chevalin. Voilà. Il ne faudra pas dire ça à M. Bartabas, hein, mais bon. Hein, c'est une photo que il ne se passe pas une journée, si je suis au travail, sans que je la regarde plusieurs fois. Et là, vous voyez, tout de suite, hop, je me rappelle immédiatement d'où je viens, et j'ai surtout pas le droit de me plaindre. Mon grand-père, Lucien Bissonnet, dont je porte le nom, mon papa, Jean Bissonnet, dont je porte le nom également, sont mes deux autres prénoms, c'est pas des noms, c'est des prénoms usuels, eh bien, est né d'une famille de 6 enfants, un milieu absolument très modeste, mais avec des vraies valeurs. Voilà, donc ça, c'est les fondements, c'est les piliers de la boucherie nivernaise. Les vraies valeurs, elles sont là. Et tous les matins, un petit regard. Voilà, petite histoire.
Oui, c'est très intéressant de se demander quel est le critère de réussite ou d'échec de la transmission. Je crois qu'il faut regarder deux choses. Il faut regarder la famille et il faut regarder l'entreprise. Par exemple, une vente peut être une bonne chose, peut être une bonne transmission, si la famille est heureuse avec ce choix et si c'est bon pour l'entreprise. Ce qui est un échec, à mon avis, c'est s'il y a des conflits familiaux, s'il y a des situations, des conflits qu'on ne peut plus résoudre, enfin, je veux dire, qui donnent lieu à des ruptures. Pour moi, l'harmonie familiale est est un critère de succès et aussi la réussite de l'entreprise, bien sûr. Donc, si on met pas les bons à la tête, ou si la transmission aboutit au fait que l'entreprise soit en danger, pour moi, c'est un échec. Mais c'est aussi un échec si on arrive à une famille coupée en morceaux, je veux dire, qui n'est plus. Pour moi, l'objectif est double. C'est de garder l'harmonie familiale tout en garantissant le succès, enfin garantissant, en ayant un succès au niveau de l'entreprise. Bien évidemment qu'on ne peut pas garantir que l'entreprise soit tout le temps en parfaite santé. Ça, mais ça, c'est la vie.
L'univers de la transmission est infini et nous sommes loin d'en avoir exploré tous les aspects. Si une forme de transmission centrée sur le collectif a disparu, d'autres formes ont su s'adapter, perdurer et retrouver vigueur et considération. Ce ne sont pas les jeunes rencontrés à Strasbourg qui me démentiront.
Ça reste des domaines d'experts.
Oui, c'est des domaines d'experts. Hein.
Oui, mais c'est-à-dire, vous avez affaire à un expert, mais il vaut mieux que vous compreniez ce que vous dit l'expert.
Voilà. Mais en fait, on a mis plusieurs experts pour valoriser, pour avoir croisé en fait les regards, parce que c'est pas une personne qui a sa méthode, sa vision, et donc en croisant les experts, pour arriver à définir la valeur.
Mais j'imagine quand même que pour vous, pour discuter avec les experts, ça doit vous servir. Enfin, j'imagine sinon on comprend rien.
Mais encore là, il y a assez vite. Là, pour comprendre ça, il faut déjà des bonnes bases en économie finance.
Moi, j'ai pas trop. Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais.
Vous avez quoi comme formation ?
Une formation d'ingénieur en génie électrique.
Donc, vous avez aucune préparation à la gestion de finances ?
En école d'ingénieur, il y en a un petit peu. Après, ça dépend suivant les cursus. Il n'y a pas grand-chose.
J'ai remarqué que plusieurs d'entre vous, ici, ont fait des écoles d'ingénieurs.
Bah, après, dans l'industrie, il y a beaucoup de dirigeants. Enfin, c'est la base technique qui est primordiale. Et on a la base technique et après, on devient dirigeant par...
Donc ça, c'est les formes d'entreprise, parce que j'ai l'impression que dans d'autres entreprises, d'autres secteurs, la formation, c'est l'école de commerce. Je vais travailler à l'extérieur et je reviens dans l'entreprise familiale.
Il y a des métiers très techniques.
Sans base technique, on n'est pas...
La touche commerce, gestion, éco, elle s'apprend après. Ouais, par contre, la technique, si on ne l'a pas fait en base... Moi, j'aurais pas repris toute seule. Parce que j'ai pas cette formation technique. Mon frère a la formation scientifique et technique. Et ben moi, on se complète avec moi. J'ai plus la partie gestion, ressources humaines.
Je pense que oui, pour deux choses. Par rapport au personnel, on n'est pas crédible si on n'a pas la base technique. Et après, en plus, par rapport à la partie extérieure, par rapport au marché, si on n'a pas la base technique, on comprend pas les évolutions du marché. On n'est pas capable de s'adapter pour suivre le marché.
Mais après, il ne faut pas négliger la partie gestion financière. Si on la néglige, ça peut jouer sur la pérennité de l'entreprise. Voilà, si on néglige cette partie-là, il faut quand même le suivre rigoureusement, notamment en phase de reprise. Parce qu'il y a des enjeux financiers à ce moment-là, il y a des rachats, il y a des dettes, et donc pour le coup, il faut le suivre de plus près. Quoi.
C'était Transmettre son entreprise, une émission de Caroline Eliachef. Réalisation Manouchak Fachaï. Avec Bernard Bissonnet, Jean-Baptiste Bissonnet, Nicolas Kugel, Apollonia Poilan, Athéna Poilan et Christine Blondel, Patrice Charlier, Viviane Netter, Valérie Tandeau de Marsac. Archivina Élodie Royer, collaboration Céline Rosa, recherche musicale Romain Couturier, prise de son François Rivalan, Georges Thau, mixage Manuel Couturier.
Fils et filles de rien, Apprentis, écoliers, artisans et notaires, LSD, c'est tout pour cette semaine. Pour tout retransmettre, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour l'école ou nous réécouter au pétrin, eh bien c'est sur la page de la série documentaire sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter. La semaine prochaine, nous serons simples soldats.